Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatche, le Ravi. Le Ravi, c'est votre mensuel régional dans tous les kiosques, tous les premiers vendredis du mois. La Grande Tchatche, c'est tous les quatrièmes samedis du mois et c'est sur les 3-8 Radio Grenouille. Avec nous aujourd'hui, Michel Peset, monsieur culture du Conseil Général, qui vient d'être réélu conseiller général du 13-14. Bonjour.
Bonjour.
Alors, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
Chers auditeurs, pour commencer, une devinette. Qui suis-je? Si je vous dis, je dure, plus longtemps, plus loin, plus puissant. Je suis partout, et malgré les pièges tendus, j'avance sans me détourner de mon chemin. Vous ne voyez pas? Je vous donne un indice. Je suis rose, je suis mignon, je suis attachant, je garde le rythme. Année après année, je suis devenu une légende. Toujours rien? Eh bien, réveillez-vous, c'est pourtant simple. Je suis le célèbre lapin Duracell. Celui qui, depuis 73, ne s'est jamais arrêté. Vous croyez quoi, qu'il fallait répondre Michel Peset? Réflexion faite, même si on vous voit le plus souvent une pipe à la main qu'avec un petit tambour autour du cou, la comparaison tient la route. En 73, vous avez déjà 31 ans, avec un long parcours politique et professionnel. Première grève à la fac de droit d'Aix-en-Provence contre la guerre d'Algérie pour vos 18 ans, premier serment d'avocat pour vos 23 ans, première campagne législative et élection comme député suppléant pour vos 25 ans, première responsabilité nationale au comité directeur du PS pour vos 29 ans. Sauf à consacrer entièrement l'émission à détailler votre CV et à griller une bonne demi-douzaine de piles alcalines, je vais devoir résumer. Vous avez créé l'Office régional de la culture, présidé le Conseil régional, siégé à l'Assemblée nationale. Vous êtes toujours en charge de la culture au Conseil général. Élu en 77 au Conseil municipal de Marseille, vous avez alors 35 ans. C'est la rencontre avec Gaston Defer. Je t'aime, moi non plus, vos rapports sont tumultueux. Il vous confie la direction de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, un poste d'adjoint à la présidence du groupe PS en mairie. Bref, il vous positionne comme l'un de ses successeurs. Vous revendiquez une part d'autonomie. Ça va plus, à sa mort on vous accuse de trahison et même d'avoir abattu le vieux chef. 100 fois, on a cru vos batteries définitivement déchargées. Battu au municipal, malgré l'investiture du PS en 89 au profit de Vigouroux, vous continuez d'avancer. Mise en cause dans l'affaire dite des fausses factures du Sud-Est, condamné pour recel de fonds dans l'affaire Urba, vous continuez d'avancer. Marginalisé dans les années 90 dans la posture du dissident, vous continuez d'avancer. Battu au municipal en 2008 à Aix-en-Provence, vous continuez d'avancer. Toujours critique vis-à-vis de la Fédération socialiste du 13, souvent à la limite de la rupture avec Jean-Noël Guérini, vous continuez d'avancer. Politique, plaidoirie à 69 ans, vous maintenez partout le rythme. Votre nom circule même comme un recours possible si Guérini venait à trébucher. Mais quel est donc votre secret mystère? Lançons une hypothèse. Peut-être que Peset, c'est comme la pile Wonder, il ne s'use que si l'on s'en sert.
Michel Peset, une réaction à ce superbe portrait imagé?
Superbe. Je veux dire que c'est très très bien fait. Très très. Oui, puis c'est bon, très bien, c'est comme ça. Hein. Oui, bah ouais. Alors, on essaie de rebondir, voilà.
Comme l'a dit Michel Peset, vous avez 69 ans, année érotique pour certains, d'érotisme à Dominique Strauss-Kahn,
on reste un peu... Je ne ferai point.
Votre réaction sur cette nouvelle gauche qu'on découvre petit à petit. Alors une gauche qu'on qualifiait avant de caviar, on se rend compte que c'est une gauche qui est aussi très argentée. Votre réaction, vous êtes choqué par tout ce que vous voyez, tout ce que vous apprenez peut-être?
Bon, on sait très bien ce qu'il en était, encore une fois, des revenus et de la situation du couple, hein, de Dominique, c'est pas une trouvaille. Alors, je ne pense pas qu'au Parti Socialiste, parmi les membres aujourd'hui du secrétariat national, il y en a beaucoup qui aient la même fortune. Sur ce, bon, on peut avoir de l'argent et être à gauche, hein, je veux dire, comme on peut être pauvre et être à droite.
Et au niveau de la libido, vous étiez au courant?
Non, personne n'était au courant. Ce dont on était tous au courant, c'est que c'était un joyeux fêtard. Bon, qu'il aimait beaucoup courir un petit peu comme ça, un petit peu comme votre lapin tout à l'heure. Mais de là à passer à une action, je dirais, plus violente, personne ne pouvait l'imaginer, quoi. Si cela est, d'ailleurs, hein, si cela est.
C'est quelque chose qui va porter préjudice ou qui porte déjà préjudice à l'image qu'on a de la gauche, parce que depuis quelque temps, c'est le règne à peu près de l'apeuprisme. On situe pas très bien la gauche de la droite. Il y a certains membres du Parti Socialiste qui étaient d'éminents membres qui sont passés au gouvernement Sarkozy, avec une facilité d'ailleurs assez déconcertante. Finalement, les frontières existent encore?
Oui, je pense que les frontières existent encore. Alors, par contre, il y a des moments, je crois aussi, il y a des moments de difficulté, comme la crise ou autre, où si on peut associer le maximum de réflexion et le maximum de propositions, tant mieux. Donc, je dis pas, c'est pas Yaka et Faucon, hein, je veux dire, tout ça est aussi agaçant. Donc, il peut y avoir des moments, encore une fois, de grandes difficultés sur lesquelles, bon, il est bon que tout le monde se mette autour de la table, et s'il y a des propositions, tant mieux, on les prend. Sinon, sur l'histoire de Dominique, je veux dire que ce qui m'agace encore plus, c'est ce qu'on indiquait aujourd'hui dans la presse quant à la maison qu'il vient de prendre. Je trouve que c'est d'une imbécilité totale.
Quoi donc, qu'il ait pris cette maison ou que la presse fasse état
Non,
de
qu'il ait pris. Non, là, c'est pas la faute de la presse de dire ce qu'il en est. Bien, c'est l'imbécilité encore une fois de prendre une telle maison dans la situation qui est la sienne. Quoi. Là, pour moi, c'est vraiment une totale rupture là.
Alors, vous êtes un homme politique, vous êtes un avocat. Il y a aussi beaucoup de commentaires sur la justice américaine, la façon dont elle procédait. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt saluer la capacité des États-Unis, finalement, à mettre en cause un homme, fût-il puissant, et à prendre en compte la parole d'une femme de ménage, hein? Est-ce que vous êtes sensible à cette attitude de la justice américaine? Ou alors, vous dites, il y a dérive, elle est accusatoire?
Non, moi, lorsque j'ai été rapporteur du code pénal et du code de procédure pénale en 93, avec Madame Delmas Marty, j'étais très partisan de la procédure accusatoire. Et je suis toujours très partisan de la procédure accusatoire, parce qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme défaut, c'est que c'est une procédure qui peut être extrêmement chère pour celles et ceux qui sont poursuivis ou celles et ceux qui se défendent. Parce que vous le savez, les avocats sont obligés de s'associer, de prendre comme collaborateur des détectives, de remorcher. Enfin, ça coûte une fortune, hein, je veux dire. Les avocats qu'a actuellement Dominique Strauss-Kahn étaient les avocats de Michael Jackson, et ils ont manqué leur liné, d'ailleurs. Bon, tellement ça coûte cher. Donc ça, c'est le point le plus difficile dans la procédure accusatoire. Mais en même temps, moi, j'en suis assez partisan, parce que d'abord, je pense que c'est à l'audience où se dit le plus de vérité, parce que là, les gens sont face directement à l'interpellation directe. Donc, ce n'est pas une procédure que je critique. Je crois que ce qu'on a surtout critiqué dans la procédure américaine qu'on a vécue, qu'on a vue, ça a été la sortie du commissariat de police et son entrée au palais de justice, où effectivement, il était menotté. Et je revendique d'avoir mis dans le code pénal et dans le code de procédure pénale tout un système de protection à l'époque, qui fait qu'on ne doit pas pouvoir présenter en France des gens avec des menottes. J'étais même très partisan d'ailleurs de considérer que le port des menottes ne pouvait se faire qu'en cas de terrorisme ou d'action particulièrement violente, mais qu'on n'a pas besoin de mettre des menottes lorsqu'on rentre dans un palais de justice. Hein. Les policiers sont là pour attraper les prévenus. Donc je crois que c'est le côté qui a le plus choqué, de voir effectivement Dominique Strauss-Kahn complètement abasourdi, hagard presque, quoi, et avec ses menottes. C'est ça ce qui a profondément choqué. Mais je dois dire que, vous savez, je crois que si on regarde l'histoire de France, qui a occupé de telles fonctions et en quelques heures a pu tomber, je vois que Fouquet à qui c'est arrivé. Hein.
Alors le PS qui perd son favori au moment où les primaires vont démarrer, est-ce que le parti va s'en remettre?
Oui, je pense que le parti s'en remet. D'ailleurs, les sondages tels qu'ils apparaissent aujourd'hui montrent que ce qui vient d'arriver ne profite pas spécialement à la droite. Alors, à qui maintenant, à l'intérieur du PS, cela va profiter? J'en sais fichtre rien. Et c'est pas parce que certains qui étaient pour Dominique Strauss-Kahn vont saisir, être pour Martine Aubry ou pour Hollande ou pour je sais pas qui. Je pense pas que c'est ça qui va entraîner, encore une fois, des mouvements. J'étais pas très favorable, moi je dois le dire, hein, à cette idée de primaire, qui avait d'ailleurs été voulue par Strauss-Kahn lui-même. Hein, bon. Je n'étais pas très favorable, mais maintenant je commence à le devenir, parce que j'entends autour de moi des gens qui ne sont pas membres du Parti Socialiste, loin s'en faut, enfin, manifestement doivent voter à gauche, et qui me disent tous, on ira voter pour Hollande, on ira voter pour qui veulent.
Alors ça va être quoi finalement ces primaires? Michel Peset, on nous avait promis un grand moment de démocratie, on risque d'arriver à une grosse pagaille quand même, non?
Je pense pas. Moi, je pense que...
On a vu une déclaration de Michel Bozet il y a quelques jours qui disait que son champion, en l'occurrence François Hollande, était susceptible d'être gêné, empêché même, qu'il y avait une espèce de complot tout sauf Hollande.
La lecture des journaux montre qu'effectivement, on est actuellement... d'une grande partie de tous sauf Hollande. Ouais, on le voit, Laurent Fabius, Ségolène, enfin, etc. Bon, tout ça, alors qu'est-ce que c'est? Si c'est au niveau des choix programmatiques, je m'incline. Si c'est pas à ce niveau-là, c'est un peu agaçant et imbécile, quoi.
Vous avez un candidat, une préférence ?
À l'heure actuelle, je dois dire que moi, je n'ai pas encore définitivement opiné. Hein. Je veux dire, Martine Aubry a une profonde réalité. Bon, il se trouve que je suis assez proche, moi, de Hollande, parce que pour moi, c'est toujours le courant, Rocard, etc. Pour moi, il incarne plus, si vous voulez, cette social-démocratie dans laquelle j'ai toujours été du temps où je...
Choisir un champion au niveau national, ça a des implications locales ? On a vu que Marie-Arlette Carlotti, par exemple, choisissait François Hollande, mais qui a été en bisbille avec Jean-Noël Guérini, qui lui était plutôt pour Martine Aubry. Vous-même, vous avez la liberté de choix ?
Ah ben ça, oui, ça certainement. Alors.
La liberté de le déclarer, en tout cas, à la presse ?
Bien entendu.
Et ?
Bien entendu.
Et ?
Non, mais je veux dire ça, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à ce titre-là. Alors ce qu'il y a, c'est un phénomène qui est interne, c'est un phénomène où bon, beaucoup de sections sont à la dévotion de X ou d'Y. Bien. Alors bon, lorsque le Y est plus important que le X, c'est le Y qui va gagner.
Je sens qu'il va y avoir beaucoup de métaphores dans l'émission.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, mais c'est en ça, encore une fois, que les primaires m'intéressent, parce que là, on est face à un électorat de gauche, qui, lui, se tamponne du coquillard que M. Guérini, M. Pezé ou Mme Carlotti prennent position. Eux, ils viennent sur leur propre analyse. Et ça, c'est un phénomène, à mon avis, qui est intéressant. C'est d'ailleurs le risque pour Martine Aubry. Parce que si, dans les primaires, c'est Hollande qui gagne, sa situation comme première secrétaire sera difficile.
Michel Hiron ?
Alors, on parle de la fédération du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône. Il y a en ce moment une enquête interne pour... essayer d'éclaircir son fonctionnement. Il y a des accusations assez graves qui ont été portées par Montebourg. Vous en pensez quoi ? Il faut effectivement que les choses soient dites clairement. Il faut changer quelque chose. Il y a urgence.
Rappelons aux auditeurs que vous avez géré cette fédération des Bouches-du-Rhône, oui, qui a un historique assez compliqué, en tout cas agité.
Comme toutes les fédérations. Et comme des situations où il y avait un grand patron. Où il y avait un grand patron, si vous voulez, ici. Mais le grand patron, c'était Gaston Defer. Bon. Et vous aviez Soldani dans le Var, vous aviez Dufaux dans le Vaucluse. Je veux dire, c'était ça. Il y avait cette époque. C'était des hommes qui sortaient de la résistance. C'était des hommes qui exerçaient de lourdes responsabilités, aussi bien local que national. Donc il y avait comme ça des gens qui abandonnaient quasiment leur légitimité politique en la revendiquant, en disant ben, tout ce que fait Gaston, c'est bien. Et puis c'était comme ça. Il y avait pas un système, si vous voulez, de pression. Je dirais plus forte, encore une fois, par rapport à des situations personnelles ou par rapport à des plans de carrière. Moi, je me souviens de discussions, j'étais largement minoritaire, je veux dire, au moment du programme commun, considéré qu'il fallait, moi, je n'étais pas pour le programme commun, et donc, à la fédération, j'interviens, et j'avais fait deux voix, celle de Charles Bonifay et moi-même. Oui, c'était, et Gaston avait dit, vous voyez que la démocratie fonctionne à l'intérieur de la fédération. Bien. Donc, il y a toujours ceux qui ont envie de parler, ils peuvent toujours parler. Hein, je veux dire, la question est là. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un peu plus fermé, un peu plus clanique. Et ça, c'est effectivement, je crois, le grand reproche qui est fait à la fédération aujourd'hui. Alors bon, il y a l'enquête en cours. Moi, vous savez, ça fait à peu près 10-15 ans que je suis responsable de rien du tout à la fédération. Hein. Moi, je suis adhérent de base et j'entends parfaitement le rester. Hein. Alors bon, est-ce qu'il faut redistribuer les cartes et est-ce que le national va le faire ? Je pense que oui, et je pense que c'est une bonne chose. Il y a un moment, il faut mettre les choses à plat et revoir un peu qu'il y ait un fonctionnement peut-être plus démocratique.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que vous avez été loin, là, dans votre phrase. Vous avez évoqué Defer avec une pointe de nostalgie, mais en même temps de la critique. On vient de fêter les 25 ans d'anniversaire de la disparition de Gaston Defer. L'esprit Defer dur, ce que vous avez décrit, le clanisme, le clientélisme, c'est dû en grande partie à cet homme-là.
Oui, mais c'est comme chez Marx, hein. Vous avez la version comique et puis la version dramatique, quoi. Voilà. Donc, dans quelle version on est aujourd'hui, je vous laisse tirer les conséquences. Mais c'était encore une fois, je crois que le phénomène de la post-guerre, ça a été ça partout. Hein. Vous aviez Guy Mollet, vous aviez Augustin Laurent, vous aviez des grands noms comme ça qui encore une fois, étaient des patrons, mais incontestés dans leur fédération. Et puis au fur et à mesure du temps, certains ont cru qu'on pouvait à nouveau les imiter, qu'on pouvait être comme eux. Mais ça en devient parfois une espèce de, de vision qui est caricaturale. Je veux dire, on n'est plus dans la même société, on n'est plus dans les mêmes
alors,
moyens.
Qu'est-ce qui fait finalement que ceux qui arrivent, qui prennent la fédération, qui prennent aussi le conseil général, parce qu'aujourd'hui on parle de Jean-Noël Guérini, mais avant lui, il y avait Bernardini qui avait pris la même destinée, on va dire. Comment ça se fait que cette ville attend, ou en tout cas les socialistes de cette ville sont toujours en attente d'un homme providentiel?
Oui, ben c'est La Fontaine, hein. Les grenouilles sont dans l'attente du roi, hein, je veux dire. Bien. Je veux
dire, c'est pas pour les camarades.
Oui, non, mais il y a un peu de ça, si vous voulez. C'est que le système de la démocratie interne, qui n'est pas facile, bon, parce que vous avez des sections qui sont énormes et où il n'y a même pas une salle pour les réunir. Donc, puis quel débat vous pouvez avoir lorsque vous êtes 300 ou 400? Il n'y a aucun débat démocratique. Et moi, je m'étais heurté, lorsque j'ai pris la fédération, je le dis, au baron de l'époque, parce que j'avais découvert des sections où il y avait 2000 adhérents. Je disais, mais vous n'avez même pas une salle pour les réunir, les 2000 adhérents. Donc, je veux dire, j'avais cassé tout ça. Et je disais, il faut une section maximum, 100, 150, c'est déjà pas mal. Là, vous avez une capacité de discuter. Tout ça, aujourd'hui, n'existe pas. Il faut retrouver, encore une fois, un esprit de dialogue, de proposition. Tout ça, c'est, j'espère, le rôle que va faire la commission d'enquête. Quoi.
Est-ce que Martine Aubry va vraiment pouvoir, dans les circonstances des primaires, s'opposer ou ne serait-ce que irriter la fédération, une des fédérations les plus puissantes de France, dont elle a besoin pour se faire élire si elle est candidate?
Si elle est candidate, au-delà, je dirais, d'aspect tacticien, elle a un aspect beaucoup plus important, qui est son image à l'intérieur de cette campagne des primaires. Et là, je crois qu'elle ne peut pas accepter, si vous voulez, qu'il y ait des critiques extrêmement fortes portées contre telle ou telle fédération. Elle est arrivée à une situation qu'elle a créée dans l'Hérault, puisqu'elle a quand même mis cette fédération sous tutelle. Alors je ne dis pas moi qu'il faut mettre la fédération des Beaugerons sous tutelle, j'en sais rien, je veux dire.
Ça vous choquerait ?
Un peu, oui, un peu, parce que je pense que certainement il y a des erreurs, certainement il y a un manque de discussion, tout ça me paraît vrai. Bon, mais pas encore une fois unique. De là à passer sous tutelle, bon, j'avoue que je suis un peu sceptique quand même.
Vous trouvez sain que la plupart des militants encartés soient également salariés du Conseil Général?
Non, je ne pense pas qu'il y ait la plupart des militants quand même. Il est donné 6500 adhérents à la Fédération Socialiste. Vous n'avez pas 6500 responsables. Enfin,
on en a un bon nombre.
Non, ce qu'il y a...
Les présidents de section en particulier.
Les premiers secrétaires de section... Je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine, je ne sais pas très bien, qui sont employés du Conseil Général. Ça, effectivement, c'est arrêté tout de suite, quoi, je veux dire, parce que on voit bien qu'il peut y avoir une espèce de rapport hiérarchique qui est complètement hors de saison à l'intérieur d'un parti politique.
Alors, on a vu Jean-Noël Guérini, président du Conseil Général, qui a été un temps, avec une innovation, président de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône.
C'est une erreur profonde.
Qui a traversé un moment de turbulence. Son élection a été un petit peu hasardeuse. Vous-même, on vous a prêté l'attention ou l'intention, ou certains en tout cas souhaitaient que vous vous présentiez contre Jean-Noël Guérini. D'abord, est-ce que c'est vrai et pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Non, ce qui est sympathique, c'est que certains aient pu me proposer d'aller à la candidature. C'est ce que disait tout à l'heure votre alter ego. Mais d'abord, il y a des situations politiques, il y a des situations qui ne sont pas. Rien au niveau procédural ne pouvait entraîner qu'effectivement, je dirais, une interdiction soit faite à Jean-Noël Guérini d'être candidat.
C'est-à-dire, c'est mais ça. Rien ne vous interdisait également de poser votre candidature, même à titre de témoignage.
Tout à fait. Oui, mais enfin, donc je continue. Mais à partir du moment où, encore une fois, la première secrétaire du parti, Martine Aubry, disait qu'on devait laisser les situations en l'état, bien chef, oui chef.
Vous n'êtes pas si discipliné que ça, d'habitude.
Heureusement. Heureusement. Mais je veux dire, si vous allez, encore une fois, à une élection, c'est a priori quand même pour gagner, c'est pas pour être battu. Et donc voilà ce qu'il en est, je veux dire, souvent c'est ce type d'analyse.
Ça vous est arrivé de prendre des risques et des...
Oui, voilà,
vous ça, avez... oui, mais ça oui
bon. Des prises électoraux qui étaient bien plus...
Bien plus, c'était toujours... c'est vrai, je reconnais que
plus
je suis parfois un peu indiscipliné.
On a évoqué, enfin certains ont parlé de la quittance du diable sur les tractations qu'il y a pu y avoir au Conseil Général. Vous ne vous présentez pas, vous avez tel...
Non.
Non. Vous, il n'y a pas eu de négociation, vous, avec Jean-Noël Guérini?
D'ailleurs, lorsqu'il m'a demandé ce que je souhaitais comme délégation, j'ai dit, écoute, moi, ce que je veux souhaiter, c'est qu'on n'a que 3 ans. Sur 3 ans, moi, je suis...
Et vous n'avez pas reproché que votre nom soit évoqué?
Reprocher, non. veut dire que ça ne l'entraîne pas dans une joie manifeste et débordante, c'est évident. On en a discuté. On en a discuté le soir du premier tour. Je vais attendre après quand on a perdu deux cantons. Si par malheur on en perd encore un le dimanche qui suit, les cartes seront redistribuées. Ça, c'est incontestable. Mais ensuite, moi, ce que j'ai demandé, vous savez, c'est une élection pour 3 ans. Bon. Et donc, moi, je suis dans un canton où la situation est assez dramatique. Enfin, je veux dire, il faut quand même regarder les choses en face. Les terrains de sport ne sont pas en état. Les centres sociaux n'ont plus un sou. Enfin, c'est une véritable bérésina. Et donc, moi, ce que j'ai demandé, d'ailleurs, avec ma suppléante, Mme Pasquini, on lui a dit que nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement pouvoir réaliser des choses dans les 3 ans qui viennent, dont spécialement les terrains de sport et les centres sociaux qui, pour nous, apparaissent comme fondamentaux dans ces quartiers.
D'un point de vue politique, Jean-Noël Guérini est quand même entre deux feux. Il y a les critiques de Montebourg sur le fonctionnement de la fédération donc, qu'il a présidé un temps. Il y a aussi une affaire qui touche son frère, donc il ne se touche pas directement, mais dans lequel son nom revient régulièrement, où il y a des soupçons de conflits d'intérêts, des choses de cet ordre-là. Est-ce que sur un plan politique, je ne dis pas juridique mais politique, il n'aurait pas été plus opportun que Jean-Noël Guérini prenne distance et passe le relais, ne serait-ce que ponctuellement, pour préserver l'institution qu'il préside? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là ou pensez que non, il était tout à fait légitime?
Non, je pense qu'effectivement, le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps politique. Bon, que dans la justice, on a beaucoup plus de temps. Bon. Par contre, la politique, on a des échéances. Mais ça, ce sont des questions qui sont totalement personnelles. Hein. Je veux dire, Strauss-Kahn, il a démissionné de tout parce qu'il savait bien qu'il lui appartenait de démissionner. Je pense pas. Je sais pas s'il a fait une déclaration disant qu'il n'était pas candidat au prix. Non, mais d'ailleurs, puisqu'il n'était pas candidat, pas besoin de le dire. Bon. Donc, je veux dire, ça, c'est une question qui est complètement personnelle. Hein. Je veux dire, en un premier temps, Jean-Noël Guérini disait que s'il était mis en examen, si cela devait arriver, il envisageait de démissionner. En un deuxième temps, il a dit que s'il était renvoyé devant le tribunal correctionnel, il préparerait sa défense et il démissionnerait. Voilà les deux.
Enfin, certains ont évoqué l'idée. Moi, je pense à Jean Viard, par exemple, qui était avec Jean-Noël Guérini, qui trouvait, selon ses termes, surréaliste que Jean-Noël Guérini se représente au Conseil général, vu toutes les affaires, vu l'évocation constante et récurrente de son nom dans la presse.
Bon, je comprends ce que peut dire Viard. Mais encore une fois, c'est une question qui est strictement personnelle. C'est vrai que, juridiquement, il n'a pas été entendu, il n'a pas été mis en examen, il n'a pas été témoin assisté. Il continuait à dire « Attendez, mon frère, c'est mon frère, et moi, c'est moi. C'est pas parce que je m'appelle Guérini et qu'il s'appelle Guérini que je suis coupable. » Cela peut se concevoir.
Moralement, Michel Peset, et là, on laisse de côté l'avocat que vous êtes, moralement, c'est tenable, sa position?
Non, mais moi, je pense qu'il aurait eu tout à gagner en disant « Écoutez, je laisse passer l'orage, je reste à côté, je continue mon travail de sénateur et de conseiller général. D'ailleurs, à mon avis, il aurait eu beaucoup moins d'orages sur la tête, dont l'orage de la fédération, d'ailleurs. Et très bien, mais encore une fois, ça sont des choix qui sont totalement personnels.
Hein. Michel ?
Je pense à une autre affaire, celle qui touche Granier, Monsieur Granier, à Ouest-Provence.
Dont vous êtes l'avocat.
Vous êtes l'avocat. Là, il y a une mise en examen, il y a une condamnation, et pourtant, on a un homme politique qui veut rester en place, qui veut rester aux manettes. Vous ne lui conseillez pas de la même façon d'attendre, de faire un pas de côté et d'attendre que l'orage passe?
Parce que le dossier de M. Granier, c'est pas parce que je l'ai défendu, c'est pas ça la question. Mais le dossier de M. Granier, si vous voulez, je considère qu'il n'y a pas grand-chose, hein, je veux dire. Alors que M. Granier soit...
C'est le qui...
Ah non, non, non.
L'avocat général n'a pas la même avis que vous, quand même.
Mais ça, c'est traditionnel. Ça, c'est une grande tradition. Je veux dire, c'est rare qu'un avocat général... Vous donne satisfaction.
Mais quand même, pour les auditeurs, enfin, l'avocat général qui dit donc M. Granier a détourné 100 000 euros par an pendant 3 ans, non pas pour financer un parti politique, ce qui enlèverait le côté crapuleux, mais il a vécu au quotidien sur ce petit pourboire de 100 000 euros. C'est grave, inadmissible, car c'est distiller le sentiment du tous pourri. Les agissements de M. Granier ont ébranlé un pilier de la démocratie. C'est très, très violent comme réquisitoire.
C'est le propre d'un réquisitoire à la cour d'appel de la part du parquet, qui n'a qu'une idée, c'est comment je fais tomber Granier. j'aimerais que vous citiez ma propre plaidoirie, enfin la plaidoirie de
mon confrère Leonardi. Vous êtes avec nous. Michel Peset, votre situation est quand même très compliquée. Vous êtes à la fois élu, c'est-à-dire que, en gros, et je schématise, vous vendez de la morale et des projets aux citoyens, et en même temps, vous défendez vos camarades quand ils sont pris la main dans le pot de confiture. C'est vraiment.
Je défends mes camarades et je défends d'autres qui ne sont pas mes camarades. Je défends des clients que j'ai et qui sont
mais là, en
des gens que
c'est
je connais.
Camarade socialiste.
Oui, bon, très bien. J'en ai défendu d'autres et j'ai connu quand même des moments où ils ont été relaxés, ils ont été acquittés. Et j'ai, voilà, donc je veux dire, c'est un dossier sur lequel je pense que techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible ce qu'on lui reproche. Bien, ça, on verra ce que la Cour décidera le 7 septembre. Mais enfin, je veux dire, c'est un dossier sur lequel je m'étonne quand même que vous-même, comment démarre ce dossier ? Ce dossier démarre sur des enquêtes qui sont faites sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la région Languedoc, dans lesquelles on met en accusation les grandes sociétés nationales sur des ententes. Et on ne vise même pas le SAN. On ne vise même pas le SAN dans cette procédure. Et d'un seul coup, on s'arrête à M. Granier, qui était maire de Fos, c'est-à-dire, c'est pas Los Angeles, Fos, hein. Bon, on s'arrête là. Et j'ai quand même, moi, une décision de condamnation de la concurrence et des prix sur les grandes sociétés. Et ça, ça vous intéresse pas ? C'est quand même étonnant.
Michel ?
Le tout se pourrit. Au moment où le Front National revient dans les sommets avec des scores et la rénovation, en tout cas de façade, qu'apporte Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel il faut faire attention, apporter une réponse politique ? Et est-ce que ce climat d'affaires n'est pas un problème politique auquel il faut répondre ?
C'est un climat d'affaires auquel il faut répondre, mais c'est un climat... Ce que l'on dit aux politiques sur les politiques, sur les tous pourris, etc., c'est vieux comme le monde. Bien. Et quand je vois le Front National se draper dans des vertus, rappelons quelle a été leur gestion sur Vitrolles, quelle a été leur gestion sur Toulon. Enfin, je veux dire, ils ont été condamnés partout. Bien, ils ont pillé les caisses, ils ont laissé des situations dramatiques, des villes qui étaient complètement endettées. Enfin,
les socialistes aussi ont eu des condamnations, Michel Guéraud l'a rappelé brièvement dans le portrait.
Je ne dis pas que les socialistes n'ont pas eu de condamnation. Je dis que je ne prends pas de leçon de morale de la part du Front National qui a une admirable, au contraire, façon de se dégager d'opération, alors que même, encore une fois, on a vu ce que ça a donné, les municipalités gérées par le Front National.
Mais encore une fois, pour reprendre ou se mettre à la place de l'électeur lambda, on a toujours l'impression que l'histoire bégaye avec les socialistes locaux et que l'embrouille est toujours au coin du couloir.
Bon, enfin, pourquoi les socialistes locaux ? Enfin, je veux dire...
Parce qu'il y a une commission d'enquête qui enquête sur la fédération du Parti Socialiste 13.
Ça n'a rien à voir avec...
Parce qu'il y a des élus qui passent en jugement. Parce qu'il y a le frère du président du Conseil Général qui a été incarcéré.
Mais attendez, vous n'allez pas me faire dire que la situation est excellente. Ça, je ne le dirai pas. J'ai bien conscience de tout ça. J'ai bien conscience qu'il y a des encore une fois, peut-être, certains fers rouges à porter dans certaines choses. J'ai bien conscience qu'il faut que le Parti Socialiste retrouve sa dignité, donc sa dimension.
On pourra le faire avec les mêmes hommes et les mêmes femmes, ou il faut un grand coup, ouvrir les fenêtres, un grand coup de balai ?
Il faut qu'il y ait des nouvelles générations qui apparaissent. Il faut qu'il y ait des personnes, pas spécialement que des jeunes, hein, je veux dire. Il faut qu'il y ait encore une fois des gens qui s'intéressent à la politique et qui ont envie de venir et qui ont envie de prendre des responsabilités. Et c'est pas, y a pas lourd, hein, qui veut prendre des responsabilités, hein. Pour parler, tout le monde est bon. Mais lorsqu'ils ont dit, ben maintenant il faut y aller, on en voit moins. Mais c'est incontestable qu'il faut qu'il y ait cette espèce de chambardement au niveau à la fois des générations et au niveau de la culture politique.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec Michel Peset aujourd'hui, Michel Guéraud, notre Michel.
Encore un petit mot sur les affaires, et puis qui ne concerne pas que le Parti Socialiste. Alors bon, c'est peut-être une petite affaire, mais enfin on en parle parce qu'on en a... On l'a révélé dans le Ravi, mais Jean-Claude Gaudin, donc, qui déjeune avec Michel Campanella en début d'année, identifié comme un des parrains de Marseille. Enfin, il y a une spécificité là, des pratiques. Les mœurs marseillaises n'ont pas l'air de changer au galop.
En même temps, une phrase que vous avez dite sur un tout autre sujet, mais qui pourrait très bien se dire là, c'est « tout change, rien ne bouge ». C'est votre formule, vous l'avez dite chez nos confrères de la Provence.
Oui, enfin c'est une belle formule de Lampedusa, je veux dire.
Mais elle reflète une certaine réalité, en tout cas.
C'est vrai, mais c'est vrai. C'est hélas vrai. Bon. Alors sur ce, effectivement, j'ai lu leur avis sur ce qui a été dit. Je commente pas. Je veux dire, moi, j'ai pas de photographie où je m'en.
En même temps, vous avez donné une interview au Nouvel Économiste il n'y a pas très longtemps où vous étiez assez pessimiste en décrivant cette ville qui était engluée dans des mœurs qui dataient de deux fers et qui ont été reproduites par la droite comme par la gauche. Avec finalement, le mal de cette ville, c'est en partie sa classe politique. C'est ce qui ressort du papier.
Mais c'est la classe politique, si vous voulez, que vous avez un peu dans le Sud, hein, vous le savez. Je veux dire, c'est d'ailleurs un des thèmes d'Ada de Jean Viard, dans lequel il dit que c'est une. Nous sommes ici dans une population qui a plus de 50% des gens qui sont des immigrés, mais pas des qui viennent du Nord, de l'Alsace, d'Auvergne, d'où vous voulez. Hein. Et le monde politique, lui, est à 98% uniquement des locaux. Bon, ça c'est vrai qu'il y a une espèce de distorsion sur ce point. C'est vrai qu'on, à mon avis, on continue à vivre sur des vieux schémas, qui n'ont plus cours, Ça, c'est la grande chose à faire. En plus, c'est une en ville aujourd'hui, la ville de Marseille entre autres. C'est une ville où manifestement il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que c'est le laisser faire. Et je ne crois pas que ce soit avec des choses comme ça qu'on arrivera à faire redémarrer Marseille.
Cette co-gestion à laquelle on assiste entre l'agglomération Marseille-Provence Métropole, dirigée par Eugène Caselli, Parti Socialiste, et Jean-Claude Gaudin, l'UMP, ça paralyse la ville? C'est une mauvaise chose ou au contraire, ça permet de faire des consensus pertinents sur des dossiers techniques?
À l'époque où vous dirigez le groupe socialiste au conseil municipal, il y a un certain temps de ça, vous préconisiez ce qu'on appelait d'ailleurs l'opposition courtoise. Alors oui. Aujourd'hui, c'est poussé jusqu'à la cohabitation, cette opposition courtoise.
Ah ben, je crois qu'à la communauté urbaine, c'est clair. Hein, je veux dire, c'est une vraie cohabitation. Hein, je veux dire, ça, c'est sûr. Bon, c'est pas simplement de la courtoisie. C'est politiquement une réalité, une évidence. Bon, c'est vrai que sur des dossiers techniques, je veux dire, sur je sais pas quoi, le nettoiement, des choses comme ça, il n'y a pas un nettoiement de gauche, un nettoiement de droite. Hein, je veux dire.
Si, il y a certaines pratiques. Il y a ce qu'avait annoncé Jean-Noël Guérini durant les municipales de 2007, la fin du fini parti, ça c'était de gauche. Le maintien du fini parti, c'était Jean-Claude Gaudin.
Attendez, vous n'allez quand même pas me définir la fin du fini parti comme étant de gauche.
Ça voulait dire que
c'était
Jean-Noël Guérini
qui l'avait fait.
Est-ce que ça voulait dire que tout ce qu'avait dit Jean-Noël Guérini, c'était de la kermesse de parolier?
Pas du tout. Je crois que l'idée qui était la sienne certainement à ce moment-là de dire le fini parti, il faut arrêter, je crois aujourd'hui ça me paraît être une bonne chose, parce qu'effectivement ça ne peut plus durer comme c'est, mais lorsque M. Defferre l'avait fait, c'était la gauche, donc on ne peut pas dire que le fini parti soit de droite ou de gauche, je veux dire, c'est que ce soit encore une fois un mode de gestion critiquable, comme peuvent l'être d'autres, je suis d'accord, mais c'est pas là-dessus, encore une fois, qu'on fait une bataille idéologique, hein, je veux dire...
Prenons notre dossier, c'est celui de la culture que vous suivez. Il y a un collectif qui se crée en ce moment au niveau de la ville et de MPM, d'acteurs, de salariés, d'employés qui travaillent dans la culture et qui dénoncent un blocage de la ville, en particulier en raison de l'omniprésence du syndicat Force Ouvrière et d'interférences qui ne devraient pas avoir lieu avec les choix de gouvernance. On a vu des directions... décapité au niveau des musées, des bibliothèques. Enfin, est-ce que là il y a un dysfonctionnement? Est-ce qu'on peut comment
le monstre qu'a créé Gaston Defferre lui a échappé aujourd'hui?
Qu'est-ce que vous en voulez à Gaston? Écoutez, on voit bien que là, si vous voulez, cette la ville, il y a un syndicat ultra majoritaire sur les ports. On voit ce que ça peut donner.
C'est la CGT.
Et on a un syndicat ultra majoritaire dans tout ce qui est la fonction publique classique et traditionnelle. La ville de Marseille, l'instance publique, enfin les grandes structures comme ça. Et on voit bien qu'on est effectivement aujourd'hui dans un rapport, comme toujours en politique, il y a toujours des rapports de force. Bien, le rapport de force des syndicats, c'est qu'en face, je le dis parce que je le pense, il n'y a pas un politique qui résiste. Donc, ils y vont. On peut les comprendre, hein, mais sous cet angle-là.
Traduisez pour les auditeurs, comme vous dites.
Je dis qu'à la mairie de Marseille, voilà. M. Gaudin ne résiste pas, qu'à la communauté urbaine, M. Caselli, je ne le vois pas non plus résister, et c'est eux qui sont aux manettes.
Bon. Pourquoi, d'après vous? C'est pas par mais caractère, parce que... pas par goût de...
Non, mais parce que c'est parce qu'ils ont peur d'affronter, je veux dire, à la fois un syndicat qui est puissant, qui peut déclencher une grève, et si cette grève est déclenchée, si demain matin on redéclenche une grêve des ordures, ben on sait que les Marseillais sont en foudrage. Bon, donc je comprends cette situation, mais si vous voulez, c'est un espèce de cheminement qui se fait, qui s'est fait au fur et à mesure, où ben on lâche. Et à un moment, il faut savoir dire non, en disant, attendez, écoutez, c'est plus possible, si vous voulez faire grève, faites grève, puis ça durera ce que ça durera, j'affronterai, moi, le corps électoral pour leur expliquer que je crois que c'est ce type de responsabilité aujourd'hui qu'il faut prendre. Mais je ne peux pas leur en vouloir au syndicat, hein. Je veux dire, si effectivement je réclame et j'obtiens, bah, allez-y, ils y vont.
Aujourd'hui, vous diriez, si moi j'arrive en responsabilité, je ne sais pas quel sera votre avenir, on en parlera à la fin de l'émission, si moi j'arrive en responsabilité, je n'aurai pas du tout la même attitude vis-à-vis d'un syndicat comme EFO.
Ah, tout à fait, je veux dire... Moi,
vous avez été en responsabilité,
j'ai...
hein.
Mais j'ai jamais été dans cette situation, hein, je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'amis à EFO. Bon, hein, bien.
Toujours prudent pour un homme politique de dire ça à Marseille.
Non, bien là, avec qui, ils le savent très bien, ce qu'ils sont... Croyez-moi, FO, moi j'ai connu ceux qui, lorsque j'avais ma fameuse bataille avec Gaston Defer, et qui étaient employés municipaux, et qui étaient de FO, et qui ont pris position pour moi, ça n'a pas été facile tous les jours.
Claude Argy fait partie de vos amis ?
Non, pas spécialement, je ne parle pas de Claude Argy. Que je ne connaissais pas d'ailleurs à l'époque. Bon. Donc je veux dire, ils ont lutté, ils ont travaillé, et je leur ai dit, vous avez de la chance que je n'ai pas été élu, hein. Bien, mais au conseil régional que j'occupais à l'époque, il m'était suffisamment reproché de considérer que la CFDT était plus originale et avait plus d'imagination que FO. On me l'a suffisamment sorti, cet argument-là. Donc, je ne me sens pas marié avec un syndicat. Je veux dire, encore une fois, FO est un syndicat qui a fait des choses, qui a fait des propositions. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils réclament, ils l'obtiennent. Alors, ben, c'est certain que M. Argy, comme vous dites, il est devenu très puissant.
Aujourd'hui, vous condamnez ces rapports incestueux, entre guillemets, entre les politiques de cette ville et ce syndicat FO ? Vous, Michel ?
Oui, je compte. Qu'il puisse y avoir des discussions de partenaires, je trouve ça logique. Ils occupent des responsabilités avec le personnel de la ville. La ville, on le sait très bien, le personnel municipal est extrêmement important. Je comprends qu'on ait des rapports de partenaires, mais dans ces rapports de partenaires, il y a une hiérarchie à un moment. Et la hiérarchie, là, aujourd'hui, je trouve qu'elle dérape complètement.
Michel ?
Alors, il y a un projet qui pourrait peut-être rénover tout ça, ou pas. La grande métropole, on en parle beaucoup. C'est la solution ?
Vous savez, moi, j'ai été pendant très longtemps secrétaire national du parti sur la décentralisation. Bien. Et ensuite, lorsque Pierre Mauroy et Gaston Defer ont souhaité et ont enclenché le phénomène de la décentralisation, ben, je peux dire que le secrétariat, avec tous les copains que j'avais autour, hein, on a énormément travaillé avec le ministère de l'Intérieur à l'époque sur l'organisation de la France avec les régions, etc. Donc, je reste très attaché à ça. L'idée de la métropole. Je vois bien que c'est un grand sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est devenu beaucoup plus... Là encore, c'est biaisé, parce que c'est devenu un sujet tactique.
Bien. Tout est tactique à Marseille. Tout est toujours entre deux élections, tout est extrêmement tactique. Des ordures en passant par l'échelle de la communauté urbaine.
Oui, il faudra que je trouve quelque chose qui n'est pas tactique, mais je finirai par le trouver.
Renaud Muselier est très, très positionné sur ce dossier-là.
Bah, il n'y a pas que lui, hein. Manifestement, il y a M. Gaudin, manifestement...
Et aujourd'hui, Eugène Casély.
Eugène Casély, bon. Est-ce que, moi, je vais vous dire aujourd'hui que la métropole est un rêve positif ? Ma réponse, elle est non. Qui a envie d'aller vivre dans une métropole ? Très bien, attendez. On a une organisation qui est d'ailleurs à peu près identique à celle de toute l'Europe, sauf Malte. Hein, quand on nous dit, vous avez les communes, vous avez le département et vous avez la région, il faut supprimer le département, je peux le comprendre. Mais si je regarde tous les autres pays européens, ils ont la même organisation. Il n'y a que Malte, parce qu'effectivement, à Malte, je ne vois pas pourquoi il y aurait trois trucs. Bien. Voilà la réalité. Je suis, moi, là, et c'est le côté où je suis presque très giscardien, c'est son côté subsidiarité. Je suis pour, et depuis toujours, même avant lui, sur la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut faire à ce qui est le plus proche, donner les responsabilités à ceux qui sont le plus proches de ce que l'on doit faire. Je considère par exemple que le problème du nettoiement de la ville, il n'y a aucune raison que ce soit au niveau de la communauté urbaine, ça devrait être au niveau des mairies de secteur, Parce que les élus de secteur, eux, sont dans la quotidienneté, ils sont face à ça. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, si je veux faire poser deux potelés pour empêcher, je ne sais pas quoi, un stationnement devant une école, je ne m'adresse pas à la mairie de secteur. Je ne m'adresse pas à la mairie centrale, je m'adresse à la communauté urbaine.
Comment ça se fait que ça marche à Lyon et pas à Marseille ? Pourquoi ils ont moins de migraines que vous, apparemment pour les plots et autres ?
Eh bien, écoutez, j'aimerais qu'on me donne des explications. Hein, je veux dire, moi, c'est la réalité. Si vous interrogez.
C'est pas ce genre de discours qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, Marseille en tout cas, avec une communauté urbaine à minima et extrêmement en retard par rapport aux autres villes ?
Non, d'abord, c'est vrai que sur Marseille. Et ça, c'est un des reproches personnellement que j'avais fait à Gaston Defferre, lorsqu'on aurait dû, au moment où j'ai présidé les Pareb, hein, c'est-à-dire l'aménagement des rives de l'étang de Berre. Et j'avais dit à ce moment-là à Gaston, il faut qu'on fasse une agglomération, il faut vraiment qu'on passe à ce stade. Gaston me répondait, attention, regarde, c'est des municipalités qui sont différentes de nous, c'est des municipalités communistes,
oui.
on va perdre la majorité. Je pense que les communistes auraient laissé le maire de Marseille président de la communauté. Hein, bon. Et donc, on s'est bloqué à ce moment-là. Et là, on a perdu du temps. On a complètement perdu du temps, on a perdu des ressources. Parce que tout ce qui s'était passé, Cabriès, ce qui s'était passé avec Vitrolles, tout ça, Marseille l'a perdu. C'est une réalité. Alors,
pourquoi ne pas rattraper le temps perdu, donc ?
Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le rattraper. Mmh. Je dis qu'aujourd'hui, ce que l'on doit imaginer, c'est quelle est la meilleure structure à l'intérieur de ce département. Est-ce que vous croyez que la métropole qui va englober, selon les idées du préfet, d'abord, je trouve inadmissible que ce soit le préfet qui décide, inadmissible,
élus. Dans cette ville où il existe...
Écoutez, moi, quand j'étais à la région, j'avais créé les programmes locaux d'aménagement concertés à l'époque. C'était les mairies, les maires qui se réunissaient entre eux, qui définissaient les projets qu'ils avaient.
Bah là, du coup, les maires, ils se sont réunis, ceux des Bouches-du-Rhône, pour renvoyer le schéma départemental de coopération intercommunale, le refuser, celui proposé par le préfet.
Oui, mais je les comprends. Je les comprends. Vous croyez qu'à Marseille, parce que demain matin, on va avoir Cuge, c'est ce qui va sauver la ville de Marseille ? Enfin, c'est une farce. C'est pas Cuge qui va entraîner à Marseille, encore une fois, un regain de dynamisme économique. J'adore les gens de Cuge, mais Fosse, pour le moment, il n'est pas prévu.
Finalement, vous n'avez pas un point de vue très différent d'une Marie Choisin qui veut protéger Aix de l'hégémonie
marseillaise ? Non, je vous dis, moi, aujourd'hui le schéma du préfet, c'est Cuge. Que demain matin, on dise la métropole, alors là, je vais faire bondir X de mes collègues. Il va y avoir Marty, il va y avoir Aix, il va y avoir Aubagne, etc. C'est une autre dimension. Là, il peut y avoir un apport de richesse, là, il peut y avoir un échange. Mais comment le faire ? Vous savez, si Marseille était vue par nos collègues autour comme étant une ville extrêmement positive, une espèce de Rolls-Royce de la politique et de Rolls-Royce économique, ils viendraient tous. C'est parce qu'ils considèrent qu'effectivement, nous ne sommes pas dans cette situation et qu'ils ne veulent pas venir. Donc, comment essayer ensemble de tisser quelque chose qui tient la route ? Mais ce n'est pas simplement, encore une fois, avec Cuge que vous allez pouvoir changer la ville de Marseille.
Le président de la communauté urbaine semble trouver ça aussi tactique, puisqu'apparemment, lui, il n'est pas tellement défavorable pour une grande métropole. Tout est tactique, y compris l'avenir économique, les enjeux territoriaux, puisque là, on voit Jean-Noël Guérini, qui lui est plutôt pour un pôle
départemental.
Oui. Le président de la communauté urbaine, par dépit amoureux, en quelque sorte, se rallie à la cause de Gaudin et de Muselier. Finalement, l'avenir de cette ville et de ce département se joue sur de la tactique, encore une fois.
Ben, j'espère que ça ne se jouera pas que sur la tactique. J'espère que ça se jouera sur un vrai projet. Bon, et alors ça sera peut-être le vrai débat des élections à venir. Si effectivement c'est simplement dire ben, c'est parce que là je vais renier 3 francs 6 sous au conseil général et 3 francs 6 sous à la région, et ce qui va m'amener à, ça amènera à rien. On sait bien que la situation aujourd'hui de la ville de Marseille et ce qu'on peut appeler au-delà de Marseille, c'est pas simplement l'argent du conseil général, l'argent du conseil régional qui sauvera la ville. Et c'est un programme national, c'est un besoin européen. Cette ville, encore une fois, c'est sa situation économique. Hein. Vous avez presque la moitié de la ville qui ne paie pas l'impôt. Bon. Donc je veux dire, on est dans une situation dramatique sur laquelle, s'il n'y a pas des apports extérieurs extrêmement forts tels que l'État et l'Europe, la ville restera ce qu'elle est. Or, elle a un besoin de dynamisme.
On parle beaucoup de Marseille. Aix, vous êtes présenté. Vous avez toujours envie de construire quelque chose là-bas, de vous représenter, pourquoi
pas ? Un de vos adversaires s'est retiré. Medvedevski semble prendre beaucoup de recul. Travaille avec M. Poutine maintenant, je crois.
Ah bon ? Non, écoutez, vous voyez, vous me reprenez des choses, c'est sympathique.
Va se concentrer sur son mandat de conseiller, de nouveau conseiller général.
Ben, c'est très bien. Bonne décision. Mais moi, en tout cas, en ce qui concerne Aix-en-Provence, j'ai pas du tout l'intention. Je vais souvent à Aix parce que j'y plaide, parce que j'y enseigne, j'habite à côté. Et donc, mais je n'ai pas du tout l'intention de retourner à une élection à Aix-en-Provence.
Pour quelle raison?
Parce qu'il faut respirer. Hein.
Autre dossier qui vous intéresse, qui intéresse Aix, 2013, la fameuse capitale européenne de la culture. Et alors là, c'est pas simple non plus. Hein. On a parlé de quelques difficultés. Bernard Latarjé est toujours là, mais il n'est plus là. C'est bien ça, ce changement-là de casting. Vous ne semblez pas enthousiasmé par l'arrivée et la désignation de M. Chouinier?
Non, M. Chouinier, sincèrement, n'est pas mis en cause du tout. Hein. Je veux dire, la personne est tout à fait remarquable. C'est un homme qui encore une fois peut assumer. Il aurait pu assumer depuis le début d'ailleurs. Hein, je veux dire 2013.
C'est prudent de mettre un énarque à la tête.
C'est pas qu'un énarque, Chouinier. Non. C'est un homme qui a mené des grandes opérations culturelles. C'est vrai que 2013, il y a une organisation extrêmement forte. Il y a des contrats à signer. Il y a mille choses. Bon, et vous le savez, moi je suis très très lié avec Mme Tasca qui a été ministre de la Culture, qui est ma voisine. Hein. Et elle m'a dit les plus grandes qualités sur Chouinier. Donc, c'est pas le personne.
Marie de Joassin, à nouveau, je résume, a dit on se fout de nous, on balance quelqu'un de Paris, un énarque, sans quasiment nous consulter, c'est pas possible. Enfin,
Jean-Noël Guérini, lui, réclamait plus de considération pour les collectivités.
Oui, mais je pense que tous les deux là-dessus avaient raison. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au conseil.
Vous êtes abstenu d'ailleurs au vote du dernier.
Oui, au conseil d'administration. Je veux dire, c'est ce que j'ai déclaré au conseil d'administration. Je veux dire, je siège au Festival d'Aix, je siège encore une fois aux rencontres internationales d'art. Lorsque le directeur est amené à partir ou à changer. Bon, on sait bien que, étant donné que c'est l'État qui paie le maximum sur ces deux structures, il nous soumet des candidatures. Là, on n'est pas dans la même situation, parce que ce n'est pas l'État qui verse le maximum sur 2013. Et donc, il paraissait tout à fait logique et cohérent qu'on nous en informe en premier et que bien, au moins un échange sur le nouveau directeur. Ce qui n'a pas été fait, puisque nous l'avons appris par la presse. C'est ce qui a mis tout le monde furieux, dont Marie Joassin et les autres élus. Monsieur Mehi, le maire de Gardanne, je vous garantis qu'il a été encore beaucoup plus violent que ce que l'a été Marie ou moi-même.
Il a voté contre Roger Mehi.
Je ne me souviens pas s'il a voté contre.
Ouais. Vous êtes abstenu, il a voté contre.
Peut-être, oui. Il a été très violent, Roger.
On a l'impression d'un ping-pong là, un petit peu mortifère sur ce dossier. C'est-à-dire que d'un côté, l'équipe de Marseille 2013 dit... les politiques marseillais de l'agglomération du territoire nous mettent des bâtons dans les roues, on repart sur les vieux défauts, les querelles, etc., de territoire, d'ambition, et les politiques font un petit peu l'union en disant ben là on a affaire à des technocrates qui sont incapables de d'écouter et se mettre en phase avec le terrain.
Donc on soit très très clair, je ne vois aucune, vraiment il y a aucun, il y a eu quelques problèmes, mais ça c'est un... Parce que c'est son rôle, hein, et puis c'est sa façon d'être à Maryse Joassin. Mais il y a toutes les collectivités locales ont versé les crédits de subvention et les crédits d'équipement quand on leur demandait.
Enfin, certaines ont en versé beaucoup moins. Toulon, par exemple.
Ben, Toulon est parti.
Parti, oui.
Toulon est parti. Bon. Mais entre nous, je peux le comprendre d'ailleurs.
Aix-en-Provence est toujours sur un chantage constant.
Aix est rentré dans l'ordre.
Ouest-Provence est divisé. Il va.
Mais Aix-en-Provence, entre nous, ne l'était pas au départ. Ils n'étaient pas dans le schéma. Hein. Bon, sur ce, maintenant, ils ont décidé d'y rentrer. Bon.
Bah, vous voyez, ça fait quand même pas mal de.
Non, mais c'est bien. Non, mais attendez, il y a du. Non, Saint-Rémy, là, la zone de Saint-Rémy n'était pas prévue dans Marseille-Provence. Ils ont demandé d'y rentrer. Ils sont rentrés. Non, je veux dire, sincèrement, je me bats, alors qu'ils ne s'amusent pas à me dire des choses pareilles au niveau des fonctionnaires, mais je vois, les politiques n'ont porté aucune critique, on ne sait même pas ce qui s'y passe.
Ah ben, c'était dans le Ravi, vous disiez il y a à peine, exactement il y a un an, là, en mai 2010, on ne peut pas continuer comme cela avec une telle fracture entre l'équipe de Marseille-Provence 2013 et le milieu culturel, c'est violent ça comme...
Oui, mais ça c'est pas par rapport aux politiques, hein.
Ça, c'est vous qui...
Voilà.
Qui
mais, je, non, mais je le maintiens. Oui. Mais je veux dire, c'est pas par rapport aux politiques.
C'est un cadeau, ça.
Non, c'est pas par rapport aux politiques. Je dis que les politiques, dans le conseil d'administration et dans la réalité des faits, ont respecté tout leur engagement et n'ont jamais discuté quoi que ce soit. Ce qu'on a discuté, ça a été effectivement le changement de pied au niveau de la direction. On disait, attendez, vous auriez au moins pu nous en informer, qu'on n'a pas à apprendre ça par la presse. Et pourquoi, M. Latarjé, vous quittez? Si c'est des raisons extrêmement personnelles, bon, très bien, on n'a pas à les connaître. Mais au moins qu'on soit informé.
On a eu Renaud Muselier qui, par exemple, voulait créer son propre guichet pour attribuer et désigner les gens qui seraient mis...
Oui, ben, c'était pas très fait, il s'est fait remonter les bretelles quand même.
Patrick hein, Bonucci lui réclame de la transparence à tout va sur les 1500 dossiers qui ont été déposés, par exemple. Il veut qu'il soit sur Internet.
Ou Marie Choisin réclame que chaque euro qu'elle met dans 2013 soit investi à Aix et pas ailleurs.
Enfin, oui, mais ça c'est Marise. Oui.
On n'arrivera pas à vous faire dire du mal
mais
de Marie Choisin.
Hubert Falco a dit la même chose.
Non, du mal, non. Je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours dit pourquoi je ne veux pas dire du mal de Marie Choisin. Attends, c'est un personnage.
Parce que c'est une avocate comme vous ?
Oui, et parce que c'est dans la tradition, si vous voulez, de ces avocats qui, ma génération, qui savent plaider, même aujourd'hui, gratuitement pour des gens. Et ça c'est le côté...
Michel Pesé, vous plaidez gratuitement pour des gens ?
Bien sûr.
Vous ne direz pas du mal non plus de M. Collard qui a rejoint le Front National ?
Collard, ce n'est pas ma génération.
On revient à Marseille-Provence 2013.
Je reviens quand même, j'insiste, mais ça pilonne quand même, Marie Choisin, Hubert Falco, enfin tout le monde veut en fait, tout le monde veut que chaque euro investi dans cette affaire-là lui rapporte directement. On mesure mal quand même la vision d'ensemble, la vision de territoire, le projet culturel. On a l'impression que tout le monde espère finalement des retombées très immédiates. Est-ce que ce n'est pas une vision quand même très, très à court terme ? Est-ce que ça ne freine pas ce projet-là ? Est-ce que ce n'est pas encore un signe d'une difficulté à penser ce territoire de façon un petit peu... en prenant un peu de hauteur de vue, quoi.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qu'on disait il y a trois minutes. C'est-à-dire que les gens ont eu une telle peur d'être dévorés, comme ils disent, par la ville de Marseille, qu'ils campent sur leur territoire. Hein, c'est le village gaulois. Chacun est dans son village gaulois. Si Marseille était suffisamment attractive, ils nous rejoindraient tous. Mais comme ils se disent, attention à Marseille, qu'est-ce qui va nous arriver ? Marseille est en déficit, Marseille a des emprunts, Marseille n'a pas de dynamique. Donc on ne veut pas. Et donc chacun campe sur son territoire. C'est ça une des réalités. Si effectivement on était beaucoup plus positif, il serait très heureux de venir. Mais sur 2013, moi ce que je continue à dire, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucune responsabilité des politiques, quels qu'ils soient. Tout le monde a joué le jeu. On n'a jamais discuté. Par contre, moi, lorsque j'ai repris ma fonction au conseil d'administration, j'avais posé comme première question où en sont les investissements. Il fallait savoir où en aller. Le préfet a pris le dossier. Aujourd'hui, il semblerait que les investissements soient tous engagés et qu'a priori, on aura tout en 2013. Parfait, on en accepte l'augure. Et la dernière fois que j'ai eu à discuter, c'était sur quid, effectivement, de ce changement. Et ensuite, qu'on nous fasse un peu le point sur la situation. On est à quelques mois maintenant de 2013. Alors, je suis persuadé que les grandes opérations qui étaient prévues, et qui sont toujours prévues, de faire venir la transhumance, etc., tout ça, ça va marcher.
Les grands chantiers ne connaîtront pas de retard, le Grand Longchamp, Mucem, le centre régional de la
Méditerranée. Non, je crois que le Grand
Longchamp,
il est prêt. Moi, ce qui vous joue un peu inquiet, c'est le Mucem, mais sur des problèmes de travaux. Alors, bon, je pense que la casquette de la région, ça, elle sera prête et que le Mucem sera prêt aussi.
Casquette de la région.
C'est les Marseillais qui l'ont baptisé.
La maison Vauzelle.
Oui. Vous savez qu'ils ont baptisé aussi le CMA, comment on appelle ça déjà ?
La Tour Saadé ?
La Tour Saadé, oui. Ils l'ont baptisé. Ils ont trouvé un truc, ça me reviendra, qui est assez drôle. Bon, ça, c'est le propre des Marseillais de faire ça.
Donc, puis vous les reprenez bien aussi. Puis vous les reprenez bien, ça fait plaisir aux camarades. Toujours très agréable.
Les investissements, on les a. Les grandes opérations... Je pense qu'elles sont prêtes, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, sur les 2000 dossiers, alors là, je dis depuis le début, j'avais souhaité, moi, que le rôle de 2013 consiste à réunir des structures culturelles qui ont à peu près la même chose, à peu près la même idée, de les réunir pour travailler ensemble.
C'est là que la notion de clientélisme, enfin cette ambiance de clientélisme paralyse les choses, chacun voulant mettre ses inféodés ses amis.
Non. Alors là, je peux vous assurer, enfin en tout cas, moi je n'ai jamais, ma position est toujours claire. Quand on vient me trouver là-dessus, j'ai dit le dossier c'est Latargé, et moi je n'écris jamais à Latargé pour lui dire prenez un tel ou prenez un tel. Je me suis bien gardé de faire une chose pareille.
Oui, mais par contre, Marseille donne beaucoup de subventions à énormément de structures. Il y a une espèce de saupoudrage. On est plutôt dans une logique de faire plaisir à beaucoup de monde. Et pas
ça,
forcément...
c'est la politique culturelle, alors,
oui, c'est la politique
culturelle
de la ville.
Pas de 2013.
Et ça, 2013 est censé justement permettre peut-être de faire autre chose, et on a l'impression qu'ils ont du mal parce qu'il y a de l'inertie. On va continuer
comme avant. À mon avis, c'est un des points sur lesquels il y a le plus de critiques à apporter. C'est-à-dire que moi, depuis le début, je dis Nous, au Conseil général, on a aussi une politique, je dirais, départementale, et sur laquelle, nous, on n'a pas touché un franc de ces crédits-là. Hein. Moi, les crédits de la culture sont restés les mêmes. Tout l'argent qu'on a donné en 2013, ça n'a rien à voir avec le budget culture. Mais ce que je disais toujours, il faut profiter de cette opération énorme pour faire travailler ensemble des groupes. Quand je reçois aujourd'hui une compagnie, moi, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, vous savez, dans 3 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, apprenez à travailler ensemble. Fédérez-vous. Et ça, j'ai l'impression que là-dessus, c'est un peu un raté de la part de 2013.
Michel ?
Oui, effectivement, un raté. On attendait beaucoup de tout. Une espèce d'Eldorado économique.
Certains, en tout cas. Oui.
1 euro investi, 6 euros rapporté, l'image de Marseille métamorphosée. Et puis maintenant, on a l'impression que ça. On a un exemple de plus des difficultés de ce Marseille, de ses capacités à retomber
en tout cas, il y a une mise en lumière de l'inertie, de certaines inerties marseillaises.
Oui, il faut toujours penser quand même que le papillon sort à la dernière minute de la chrysalide. Donc, espérons que nous aurons un papillon.
Un mot peut-être sur ce papillon. Votre réaction sur les propos du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, sur l'opéra qui lui est municipal, sur sa programmation qui est quelque peu folklorique à ses yeux ?
Je ne vous cache pas que j'ai eu un échange extrêmement rude avec le ministre en présence de Jean-Claude Gaudin, puisqu'on avait une réunion de travail. Je lui ai dit ce que je pensais.
Vous lui avez dit quoi exactement ? C'est quoi un échange rude ?
Un échange rude, c'est que je lui ai dit que vous étiez en train de nous raconter une inspection qui a été faite par quelqu'un que, par ailleurs, je connais suffisamment. Il a, en général, était toujours dans les régimes qui se succédaient. Il était toujours présent. C'est une faculté. Et il a fait un rapport au vitriol. Il croit qu'il n'était jamais venu. Il est très bien. C'est comme ça. Je dis que l'Opéra de Marseille, je le regrette, parce que moi, culture du Conseil général, on ne donne pas un franc. On paie simplement les livrets d'opéra. Mais ça coûte 16 millions d'euros à la ville de Marseille, ce qui est considérable. Ça coûte 300 000 euros à l'État.
Ce qui n'est pas moi je vois ça en tant que contribuable, c'est pas un peu stupide. Il serait pas mieux, vous avez parlé tout à l'heure de mutualisation, de mutualiser l'Opéra d'Avignon, celui de Marseille, celui de Toulon.
Ah voilà, vous savez que ça a été mon dada quand j'étais président de la région. J'ai toujours considéré qu'il fallait faire un opéra régional. J'ai eu 3 inspections et 3 rapports d'inspection de la part du ministère pour organiser ça, et ça n'a jamais abouti. Pour des raisons.
C'était peut-être l'occasion, là, la critique de Frédéric Mitterrand était peut-être l'occasion de changer les choses.
On n'était pas dans cette vision-là, on était dans une vision où, effectivement, M. Mitterrand souhaitait que nous prenions comme directeur de l'Opéra de Marseille quelqu'un d'un peu, je sais pas quoi, beaucoup plus connu. Très bien, je ne conteste pas ses qualités d'ailleurs de chef d'orchestre, si ce n'est que je lui ai dit, mais même lui, parce qu'on disait l'orchestre n'est pas bon. Ben, je dis l'orchestre n'est pas bon, il est mal dirigé. Mais celui que vous me proposez, je l'ai entendu moi. Dans Mireille à l'Opéra de Paris, et c'était également très mauvais. Bon, donc vous voyez, tout est relatif là-dessus. Mais le Don Juan qui vient d'être fait à l'Opéra de Marseille, il y a quand même eu 12 400 spectateurs. C'est quand même pas mal. Bon, aujourd'hui, l'Opéra de Marseille, la jauge, elle est pleine à 99%. Donc je veux dire, c'est un opéra qui marche. Mais ce qui a besoin, effectivement, je dirais, de très gros travaux d'abord à l'heure actuelle, parce que la situation physique de l'opéra est en grande difficulté.
On arrive au terme de cette émission, Michel Peset. Gérer une ville, Michel Peset, ce n'est gérer que des problèmes. Gérer un département, ou en tout cas un secteur de ce département, en l'occurrence la culture, c'est gérer que des problèmes.
J'ai peur que ce soit un peu vrai. Mais c'est aussi, c'est se dire pourquoi il y a ces problèmes. Et quelle réponse globale on peut apporter ? C'est pas simplement, encore une fois, une politique, je dirais, de mettre tous les jours un peu de colle ou un papier collant pour boucher un trou. Je crois que tout ça, c'est une réalité où les gens nous demandent une réponse immédiate sur le quotidien, parce que les gens souffrent. On est dans une ville où les gens souffrent de façon considérable, qui n'en peuvent plus. On le voit avec ce qui se passe au niveau des élections. Il y a des moments où on peut les comprendre. Je vous les comprends d'ailleurs. Et je dis qu'il faut intégrer effectivement ces problèmes qui sont posés, mais leur donner une dynamique. Leur donner une dynamique de positif. C'est la seule façon de répondre aujourd'hui.
Michel Peset, je vous remercie. Allez, quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.